Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome in Comme d'Archie Podcast Season 4.
Saison 4, dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant,
now,
lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archie.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Ronald Sirio. Bonjour Ronald.
Bonjour Anne-Charlotte.
Bienvenue dans Comme d'Archie. Vous êtes architecte italien et à la tête de votre propre agence, Ronald Sirio, architecte avec un S. Ronald, votre travail s'inscrit, et là je vous cite, dans une approche de continuité par rapport à l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme. Votre production s'inscrit comme témoin des enjeux qui travaillent la société contemporaine et la profession. La responsabilité sociale notamment, qui conduit à favoriser les matériaux biosourcés, les dispositifs bioclimatiques, mais aussi l'économie du foncier et de la matière, ou encore la nécessité de réguler la place de la voiture dans l'espace urbain, l'attention portée à l'existant, qu'il s'agisse d'urbain ou de bâti, et enfin le besoin d'établir une nouvelle alliance avec la nature. Vous et vos équipes êtes sensibles, je cite à nouveau, au souffle des grands paysages. Je trouve que c'est une très belle expression. Et donc, vous vous attachez toujours à installer des vues traversantes, des porosités, dans une esthétique à la fois rigoureuse et chaleureuse. Il semble aussi, et je tenais à le préciser, que votre histoire a croisé celle de Paul Chemetov. C'est ça ?
C'est bien le cas, oui, tout à fait. Oui.
Vous allez nous parler de ça. Peut-être, on va y revenir.
Évidemment, oui.
Voilà. Donc, on va commencer par le début. Quel est votre parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Et quelles ont été vos études? Peut-être que, naturellement, vous enchaînerez sur le commencement de votre activité d'architecte. Mais je vous laisse dérouler la partie biographique.
Je vous en prie. On le reconnaît sans doute à l'accent, pas trop au prénom, parce qu'il reste quand même anglophone. Donc, on pourrait se dire que je viens d'ailleurs. Les études et aussi ma naissance et mes premiers rapports avec l'environnement, le paysage, les espaces, ils ont eu lieu à Gênes, dans une école d'architecture qui s'était composée à partir un peu des écoles plus de le nord d'Italie, des Turin, des Milan. Et avant ça, enfant, le jeu qui me plaisait le plus, c'était le jeu dans l'espace. C'était jouer dans la nature, en construisant l'abri. L'abri, celui de l'enfance, l'abri de la cabane. Et donc, pour pouvoir le faire, on est bien dans la nature. C'est plus difficile d'avoir l'occasion de le faire dans l'espace anthropomorphe, de le faire dans la ville, même aller dans les écoles. Donc, c'était dans la campagne, pas loin de la mer. Ces premiers jeux me passionnaient beaucoup et me prenaient beaucoup, beaucoup d'attention. C'était parfois partagé avec d'autres, mais sinon aussi très solitaire. C'était un début de l'abri, un début de la construction, un début du rapport avec le poids, la matière. Et déjà, vers l'âge de 10 ans, j'allais assez loin, quand même relativement loin, à voir comment on pouvait constituer des assemblages, comment on pouvait constituer des éléments porteurs et des éléments portés, comment gérer la question de la pluie. Parce que je voulais faire un abri qui soit étanche. Et j'avais fait un exercice qui est resté. J'avais créé une surface étanche horizontale et n'a pas survécu à la nuit. La surface, elle a survécu, mais la structure porteuse n'a pas résisté. Donc aussi, comment l'élément naturel qui est solide, qui justifie le début de notre effort de s'abriter, on doit établir un rapport, un équilibre. On doit peut-être s'en défendre, mais composer avec. Ça, c'était la toute jeunesse. Après, j'ai pu faire la jeunesse, l'enfance. En jeunesse, j'ai fait des études d'art. Assez jeune, à l'âge de 13 à 14 ans, j'étais déjà dans un lycée artistique. Donc, j'ai pratiqué beaucoup le dessin, un peu le début des écoles des beaux-arts, on peut dire. C'était vraiment l'esprit dans lequel on apprend les techniques, on apprend les actes qu'on fait en tant qu'artiste. C'était très ouvert, donc il y avait aussi de l'architecture, de la sculpture, du dessin, de la peinture. Cela n'empêchait pas qu'il existait toutes les matières scientifiques.
Et votre environnement familial était très stimulant par rapport à ça ?
Il était stimulant dans la construction. Et c'est ça qui est resté jusqu'à il y a peu de temps, peut-être. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Mais en tout cas, pendant les études encore d'architecture, cette maison dans laquelle auparavant j'allais et j'ai construit autour des cabanes, à un moment donné, je l'ai investi pour réhabiliter complètement la maison.
C'était une maison de vacances.
C'est une maison de vacances qui a été un atelier. Pendant 6 ans d'études, j'ai pu construire à l'intérieur. Donc, mon environnement familial, c'était cette opportunité. C'était
d'accord. C'est assez beau comme image, un étudiant, finalement, qui met en application, peut-être qu'il apprend ou pas, d'ailleurs, mais directement dans son espace de vie.
Oui, il fallait accepter la petite échelle, donc évidemment.
Ouais.
Mais et en même temps, pour moi, c'était une évidence, parce que vu que je le faisais déjà avant même de faire des études, même si les études, je les ai menées, et encore aujourd'hui, je considère qu'en premier lieu, c'est une réflexion. C'est l'acte de construire, il doit venir à la suite. Donc les études, ils étaient pour moi surtout un parcours intellectuel, mais tout de suite, il fallait qu'il y ait un contact entre l'idée et le poids de la matière. Et le poids de la matière, je l'ai vécu personnellement, parce que même à petite échelle, c'était constaté comme des idées, même des croquis, parce que je dessine évidemment depuis toujours à la main, et c'est la main qui est une prolongation un petit peu de l'idée, de la tête, de l'esprit. Un peu comme on voit certains croquis d'Alvaro Siza, qui est la main, elle est dans le champ de son dessin, qui représente sa main. Même s'il y avait ça, il fallait qu'entre le dessin et la matière, il y ait un lien direct, et donc la matière, elle a du poids. Et c'est pour ça que l'opération de bâtir, elle est coûteuse, et nécessite beaucoup, beaucoup d'acteurs qui puissent faire. C'est un exercice qui est dans lequel le rôle de l'architecte ou d'autres, de tous les contributs de la matière grise, il pose les intentions. Après, il y a un acte derrière qui est déterminant et qui est porté encore beaucoup par les bras des différents compagnons qui opèrent. Et c'est aujourd'hui encore un travail qui reste industrialisé, certes, mais moins que beaucoup d'autres.
Donc à Gênes.
Oui, c'est une ville du nord de l'Italie.
Oui, je crois qu'on la connaît tous grâce, malheureusement, avec l'histoire du pont que votre architecte international, Renzo Piano, a refait. Mais, d'ailleurs, j'ai assisté il n'y a pas longtemps à un jury de diplôme où c'était le sujet demandé aux étudiants. Ils avaient tous travaillé sur ce réaménagement. C'est un sujet fort intéressant. Les écoles où vous avez fait vos études,
c'était, il y avait l'école, en Italie c'est encore l'université qui donne, dispense les études d'architecture, et c'était des partenariats avec les écoles aussi de Turin et Milan, donc on avait des allers-retours, des cours qui étaient donnés par des professeurs qui étaient sur plusieurs écoles.
J'imagine qu'à la sortie de l'école vous vous êtes questionné. Et vous avez tout de suite décidé de venir en France ? Comment ça s'est passé, tout ça ?
Je me suis effectivement questionné avant la sortie. Et j'ai même bougé avant la sortie. Ce qu'on faisait en Italie, et c'est vrai encore aujourd'hui, je trouve que c'est une richesse. Il y a certains qui l'ont initié il y a un peu de temps, Aldo Rossi par exemple, Grigotti. Il existe une architecture qui est beaucoup enseignée, une idée de l'architecture qui n'a pas vocation à se construire. Ce n'est pas le cas des exemples que je porte. Androsso était bien construit, Grigotti aussi. Il y a eu quand même aussi beaucoup d'autres des élèves qui ont peut-être moins construit ou pas construit du tout. Et donc, c'est une discipline. En premier lieu, c'est une réflexion, c'est une compréhension de l'ordre sociétal, c'est une compréhension de qu'est-ce qu'on a envie de bâtir dans une ville à l'égard des symboles des pouvoirs qui sont en place. Okay. Un des premiers projets que j'avais pu faire à l'école, c'était à Rome face au Colossée.
Carrément.
Voilà. tout jeune, 20 ans. Comment bâtir face au patrimoine et face à ce qu'il pouvait signifier. Et même le mot de bâtir n'existait pas plus que ça en Italie. Ce n'était pas question de bâtir, c'était question de quoi poser, quoi dire. Quelle prise de parole. Vers la fin des études, j'avais tout à fait envie de côtoyer des cultures, peut-être aussi un environnement professionnel dans lequel l'opportunité de la réalisation, elle était au contraire très forte, elle était prédominante.
Donc la France offrait ce
Oui, c'était un bon exemple. C'est le début des années 2000, ça se termine le siècle d'avant, c'est la fin des années 90. Et la commande publique, elle était très importante. Le bâtir dans le sens vraiment de cette fois-là, du bâtir, d'intégrer des programmes, d'avoir des besoins, de répondre, c'est très important, plus important qu'en Italie, plus important qu'au Portugal, à ce moment-là, c'est une architecture qui m'avait beaucoup séduit, qui pouvait avoir lieu ailleurs, et donc non, mais c'est... Et j'étais tombé amoureux de la ville de Paris, même plus jeune. Oui, je pense que c'est une ville qui est séduite encore aujourd'hui. La jeunesse, elle peut être très très séduite par Paris.
Oui, alors que nous, on est plutôt dans le mouvement inverse. On vit un peu le mouvement en répercussion du confinement, du Covid-19. Beaucoup de Parisiens ont envie peut-être de grand air, tout simplement. Souhaitons que la magie opère et revienne, surtout. En Italie, en revanche, vous parliez de cette démarche intellectuelle de l'architecte italien, mais moi, il m'est arrivé d'avoir des appels à candidature sur du patrimoine. C'est d'une richesse et d'une méthodologie incroyable, toutes les interventions sur le patrimoine italien.
Oui, même toutes les écoles d'architecture ont, au cours des études qu'on mène, en tout cas c'était le cas à l'époque, aujourd'hui j'ai pris un peu des distances, on doit faire un certain volume de travaux, des réflexions, des recherches sur la question du patrimoine. À titre d'exemple, comme ça, moi j'avais pu passer un certain nombre de mois à prendre connaissance d'un bâtiment historique génois, qui était par hasard aussi l'agence de Renzo Piano à l'époque, avant même la construction de l'agence face à la mer. Et donc on prenait connaissance de ce qui était bâti bien plus auparavant. Et effectivement, après, dans les temps pour qui choisit cette voie, c'est déjà s'armer pour pouvoir après intervenir dans ce qui existe avec la reconnaissance du sens initial. C'est pouvoir, à partir de ce qui a été fait, on pourrait dire un peu continuer une écriture, même si on est dans des nouvelles exigences. On est dans nouvelles... Ça, c'est quelque chose qu'en Italie, non, je n'ai pas pu faire. Effectivement des...
Ouais. Mais cette richesse culturelle, parce que ça fait quand même partie de votre ADN à tous en Italie, enfin, on le ressent vraiment. Il y a une différence, d'ailleurs, de niveau de culture de base énorme. En Italie, le patrimoine est vraiment fait partie de vos vies, alors qu'ici, on s'en rend moins compte. Comment ça a marqué votre parcours? Ça a dû le marquer?
Le patrimoine, ce qui est les accompagnements que j'ai eus aussi par un certain... J'appelle ça des maîtres, en fait. Je considère que dans mon parcours, j'ai eu des maîtres, quelques-uns. Et je pense que l'écriture, ce que j'ai fait aujourd'hui, il va être tout à fait contemporain. Mais il trouve sa source dans le sens de ce qui a été fait peut-être il y a un certain temps par rapport à la contemporanéité dans laquelle ça s'est fait. C'est toujours question d'être au rendez-vous avec son temps à l'égard de des technologies qu'on est capable de développer, de mettre en forme. Donc c'est être dans son temps et d'un certain point de vue, en revanche, le travail que par moment je pense de faire, il est toujours le même. C'est le même de celui qui a été fait dans le patrimoine que j'ai côtoyé, qui avait peut-être deux siècles ou deux millénaires.
Quelque part, c'est aussi humblement avancer en se disant bah, on n'est pas forcément plus génial que nos ancêtres.
Non, parce que, bon, en tout cas, on voit qu'il y avait des génies quand même. Hein,
donc, ouais.
parmi nos ancêtres, il y avait des génies. Mmh. Et c'est vrai qu'en Italie, c'est quelque chose qui est très diffus sur le territoire. Les villes italiennes, chacune elle a une histoire suffisamment longue, dense, pour qu'elle puisse avoir son propre bagage, on pourrait dire c'est un patrimoine, d'accord, c'est le mot, mais avoir créé un certain volume qui rayonne dans un territoire limitrophe et donc qui vit encore aujourd'hui. Il a un rapport quasi quotidien, sinon régulier, avec des éléments significatifs, avec beaucoup de valeurs. Donc tous les architectes de la Renaissance, ce qui est le Moyen-Âge, ce qui a été fait bien auparavant. Là.
Ce qui renvoie au pouvoir aussi de la ville, parce qu'en Italie, l'Italie en tant que telle, c'est récent.
Tout à fait, oui, oui.
Le pouvoir est né par les villes.
Le pouvoir est né par les villes. L'institution qui réglait les sociétés, c'est une institution qui est attachée effectivement à un territoire beaucoup plus petit que celui qu'aujourd'hui on pourrait appeler l'Italie, dans laquelle la ville, c'était l'élément qui allait coaguler les institutions, qui allait centraliser le pouvoir, qui donc il devait se donner et se doter de sa façade, de ses apparences.
Vous nous le direz peut-être un peu plus tard, mais ça a peut-être aussi influé sur votre manière de concevoir, mais peut-être pas du tout. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez votre propre agence. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez quand vous êtes sorti de l'école?
Je pense que c'est un cours. C'est un cours. Je n'avais pas une idée claire de ce que j'allais accomplir. Je ne crois pas. Un désir, je pense que je réponds à ce désir constamment. Et je pense que je n'ai pas encore répondu à 100% à tous les facettes.
Vous arrivez en France et vous rentrez dans une agence, comment ça se passe?
Je rentre dans une agence dès que j'arrive, et même je pars avec l'idée d'arriver. Et bon, je fais des recherches et j'arrive chez Henri Sirini. Je connais le grand maître. Donc je vais quitter un maître, donc j'arrive chez un maître. Je ne le connais pas aussi bien, mais quand même. Mais je ne le connais pas aussi bien qu'après les gens que j'ai pu côtoyer, ils le connaissaient en tant que maître. Mmh. Donc ça a été une chance sur plusieurs niveaux. C'était une chance parce que c'est toujours bien, quand on arrive d'ailleurs, d'arriver, vivre ce qu'on vit personnellement, mais aussi avoir un repère par rapport à tout l'entourage plus large. Donc, avoir compris que lui, c'est un maître d'autres, c'était bien parce qu'il me donnait une clé de lecture aussi assez large. Et effectivement, après, j'ai pu travailler quelques temps avec certains de ses anciens élèves. Par ailleurs, il a été un maître aussi pour moi, puisqu'il m'a bien... Il m'a accompagné même dans la fin de mon projet de diplôme, on pourrait dire, que je n'avais pas encore tout à fait achevé.
Donc finalement, votre diplôme, vous l'avez soutenu en France?
Non, je l'ai soutenu en Italie.
En Italie.
Mais je l'ai partagé un petit peu le travail que j'avais déjà démarré, que j'étais en train de faire. Je l'ai partagé avec lui. C'était bien.
Alors,
du disponible, on peut dire.
C'est formidable. Qu'est-ce que vous en avez gardé de votre passage chez Sirini? Et pendant combien de temps, d'ailleurs, vous avez œuvré à ses côtés?
Oui, un peu moins d'un an.
Ah oui, c'était quand même relativement court.
Oui, c'était relativement court. C'était aussi, il a un temps de démarrer, on faisait les dernières choses sur le palais de justice des Pontoises, ce qui a été un de ses gros projets un peu vers la fin. Ce que j'ai gardé, c'est l'amour pour le travail. C'était, et sa détermination a porté beaucoup de responsabilités de ce qui était fait dans le cadre de ces projets. Il arrivait à dessiner à la main des détails de ce qui devait se faire. Donc c'était deux choses. C'était certes être celui qui va créer, mais c'est aussi prendre cette responsabilité de la transformation du désir, de l'intuition. En tant qu'architecte, aujourd'hui je le connais, en étant de l'autre côté, on est très sollicité, donc on a beaucoup d'idées et parfois on n'arrive pas à tout faire. Et donc c'est un peu ça, savoir qu'il gardait encore une capacité remarquable dans l'idée et dans le faire.
Donc une énergie très forte et une capacité à convaincre.
Oui, oui, ça c'est... C'est pas moi qui va le...
Oui.
C'est déjà su et c'est...
Bien sûr, mais c'est important de le rappeler.
Oui, tout à fait.
Je pense que quand on a côtoyé ce genre de personnalité, c'est assez exceptionnel. Donc, moi, j'aime bien recueillir les différents points de vue sur la question.
C'est juste, c'est juste.
Et alors, après Siriani ?
Après Siriani, j'ai travaillé dans à nouveau des agences, plusieurs, des périodes. Aujourd'hui, je trouve sans doute court, relativement court. C'est que ce n'était pas du tout la vie d'un projet, c'était bien moins. Mais c'était à chaque fois quand même un temps pour comprendre le fonctionnement d'une équipe, le fonctionnement d'une approche, d'une intention. Ça s'est fait pendant peut-être 3-4 ans environ. Et peut-être parmi, comme vous l'avez déjà cité tout à l'heure, parmi d'autres personnes, d'autres agences, je travaillais avec Michel Raymond, j'ai travaillé avec Pascal Guédo, j'ai travaillé avec Gaëtan Lopé-Noël ou d'autres. Et à un moment donné, j'ai travaillé aussi avec Paul Schmetov. Et on peut dire que ça a été ma dernière expérience en agence. Et après, j'ai pris le relais en me disant...
La maturité est là.
Je ne sais pas si la maturité est là. Mais en tout cas, l'envie de prendre la décision
de transformer.
De se la reconnaître, peut-être.
Quand vous êtes rentré chez Paul Schmetov, c'était à peu près dans quelle année ?
Je pense en environ 2004.
Ouais.
En travaillant avec lui, j'ai travaillé sur des projets très diversifiés. Donc j'ai...
En termes d'échelle ?
En termes d'échelle, en termes de programme, en termes d'enjeux. Et peut-être aussi en termes des problématiques, ça j'ai pu faire, et c'est ce que j'ai fait encore aujourd'hui. J'ai un peu démarré des premiers rapports, des ouvrages d'art, des projets urbains, de l'espace public.
Oui, d'ailleurs, vous avez livré, je crois, un pont, c'est ça ?
J'ai livré une passerelle dans la Somme, oui.
Ouais,
j'étais encore cette semaine, parce qu'on enlève les réserves, c'est plutôt réussi. C'était très important pour le tissage des parcours de la ville qui sont en cours. La ville d'Amiens, il y a une gare faite par Perret avec Vasconi qui a fait un grand ouvrage. Elle a une position centrale, mais il y a aussi beaucoup de territoires qui est autour qui n'est pas encore connecté à la ville ancienne, ou la ville du centre-ville. Donc c'est un passage qui met en plus beaucoup en rapport la ville avec la nature, ce qui me tient particulièrement à cœur.
Alors, votre agence, vous la créez en quelle année, finalement ?
Il y a 10 ans maintenant, donc on est 2012.
Oui. Et c'est l'occasion d'un projet qui vous fait créer cette agence, ou vous avez marre et...
Non, non. Vous voulez que je sois très honnête ?
Oui.
C'est la naissance de mon fils.
Oui.
Ce qui n'était pas forcément du point de vue logistique le moment.
Oui, c'est en général, on choisit la sécurité.
L'idéal, non. Ce n'était pas la sécurité. Non, la naissance de mon fils m'a fait prendre peut-être ce courage, on pourrait dire. Je pense qu'il faut quand même du courage pour prendre des voies. Surtout si effectivement, on ne sait pas encore bien comment elles vont se constituer. Après, le futur, de toute façon, on ne le connaît pas. Même on fait des idées.
Comment vous avez réussi à attraper votre première commande ? Vous avez répondu à des marchés publics ? Vous avez, par le réseau, comment ça s'est passé ?
J'ai fait plusieurs choses à la fois, mais il y en a quand même une. Avec Paul, on travaillait et on a pu faire tout de suite un concours assez important, cette fois ensemble, d'un campus universitaire, conception-réalisation. un projet sur lequel je m'y suis beaucoup, beaucoup investi, qu'on a fait aussi avec un Martin Duplantier, que j'ai pu connaître, et aujourd'hui, son Franck Boutet, qu'on a fait donc avec lui. Pour lui aussi, c'était une aventure d'une dizaine d'années assez importante, parce qu'on avait conçu des façades bioclimatiques. On cherchait vraiment à pousser le projet dans l'innovation. Et donc, tout le monde qui est autour du projet, il avait son effort là.
À fournir.
Donc ça, c'était important pour moi, pour l'agence. C'est de façon concomitante, j'ai fait des projets en Suisse, plutôt volontaires. J'ai commencé à travailler un peu aussi sur la réhabilitation de l'École normale supérieure de Lyon, des Gaudins, pour faire des choses mineures, mais c'était... Et après, ça a suivi.
Vous avez réalisé en Suisse, parce que c'est...
Non, je n'ai pas réalisé.
C'est pas si
des projets
facile.
Volontaires, ouais. C'est pas facile du tout. Non, j'aime beaucoup leur façon d'approcher le projet. C'est-à-dire que dans les rendus, souvent, il n'y a même pas d'image. Donc, c'est peut-être un peu plus proche du parcours de l'école que j'avais pu faire encore en Italie. Mais après, bon, j'ai pu faire plusieurs concours. Il m'a été dit, plusieurs conférences suisses, qu'ils font très attention à qui va construire quand même.
Alors, est-ce que vous avez une histoire de projet à raconter ? On a parlé déjà de votre passerelle, des premiers projets qui vous ont mis le pied à l'étrier, mais vraiment le corps de cette matière architecturale.
D'accord, oui. Je vais parler d'un projet très récent, en fait. Actuellement, on est en train de faire un projet sur la ville de Chambéry. Et ce qui me tient à cœur récemment, c'est plusieurs choses à la fois. C'est déconstruire la ville sous la ville. Donc, on est à nouveau sur des fonciers qui sont révisités au bout d'un certain temps, d'un siècle. C'est le cas dans d'autres projets. Parfois, on est sur des domaines ferroviaires. Là, on est parti sur des domaines ferroviaires. Donc, c'est l'opportunité aussi de construire, quand c'est le cas, parfois dans le cœur des villes. Donc, là où les occasions, par moments, ont été déjà... Elles ont eu lieu dans d'autres temps. Et là, à un moment donné, au bout d'un siècle, il y a à nouveau une occasion d'écrire, là où il y a beaucoup d'écriture qui peut-être il y a d'un certain temps, réécrire quelque chose aujourd'hui. Donc c'est le cas, on est vraiment face à l'arrivée du train, de la gare, dans une centralité, il y a un passage, donc il y a eu un projet aussi des gares de rive. C'est un lieu de connexion entre l'Italie et la France, c'est la seule arrêt qui est entre Lyon-Turin. Et donc, c'est un site qui est soumis à un architecte des bâtiments de France. Donc, les monuments sont historiques, ils ne sont pas loin. Donc, comment dans ces environnements-là, pouvoir faire, bien faire, certes, écrire aujourd'hui dans le respect de ce qui est écrit auparavant. Et pour ce projet, il y a juste pas loin, il y a un des monuments, c'est une rotonde, c'est un très grand bâtiment avec une coupole, qui fonctionne encore, mais qu'on peut visiter. C'est une rotatoire qui permet de faire tourner les trains entre les allers-retours entre l'Italie et la France. Donc, pour faire tourner un train à l'intérieur d'un bâtiment...
C'est une machinerie énorme.
Donc, la couverture, elle monte d'étage à étage. Même, donc, ça fait comme une montagne bâtie. Et c'est là que j'ai trouvé la source du projet, donc comment faire un clin d'œil à cette machinerie, dans une nouvelle machinerie qui ne doit pas s'occuper des trains, pas du tout, même si c'est en contact avec le domaine ferroviaire, mais qui doit s'occuper de la vie qui va occuper ces lieux pour des temporalités différentes, des actions différentes. Donc c'est un programme mixte dans lequel on a de l'enseignement, on a de l'activité, on a des commerces, on a de l'habitat, on a de l'habitat d'étudiants. Donc c'est un peu une sorte de micro-ville dans la ville.
C'est un gros projet alors ?
C'est trois bâtiments qui sont dans un tout. Donc il y a un socle commun qui gère certaines fonctions techniques, comme évidemment le stationnement, d'autres choses. Et après, c'est trois bâtiments distincts qui sont assez proches l'un de l'autre et qui donc ils rentrent dans un registre commun Et en même temps, chacun il doit avoir sa spécificité. Déjà parce qu'il y a des nécessités dans le terme d'auteur, d'espace extérieur, des programmes qui sont à l'intérieur. Ce qui a été recherché, c'est qu'il y a du commun et chacun il a aussi sa propre histoire, sa propre raison d'être, et donc son propre façon d'apparaître.
Le calendrier de ce projet ?
On dépose le permis de construire actuellement. On espère de démarrer le chantier à l'été.
Donc c'est vraiment le projet qui vous anime en ce moment ?
Non, pas vraiment. Non, ça c'est un. On entend de faire aussi, mais ça c'est encore un concours, une maison de santé sous la ville d'Amiens. Et c'est le projet qui m'anime à ce moment-là, à vrai dire. Oui. Et là c'est à nouveau assez important. C'est la notion de la santé dans le sens large. Donc la santé qui est constituée du soin, peut-être, parce que pour être en santé, il faut du soin. Donc effectivement, il y a du médical. Mais c'est aussi la santé, ça passe par l'alimentation, ça passe par... Donc il y a du programme pour plutôt de l'alimentaire, de façon intelligente. Donc c'est comment la santé, ce qui me tient à cœur, comment la santé, on la retrouve, je crois, aujourd'hui, avec en établissant un bon équilibre entre se protéger des éléments naturels et vivre avec. Donc, c'est des choses qu'on fait régulièrement. On cherche à être très économe en termes d'emprise au sol. Et on cherche que ce qu'on fait, certes, il est dédié aux personnes qui vont ou être aux abords, et donc peut-être ne pas être les futurs utilisateurs, mais être en tout cas concernés parce qu'on y habite en face, parce qu'on y passe tous les jours, voire même on y est concerné parce qu'on y habite. Et comment, en même temps, s'occuper aujourd'hui pas seulement de l'être humain, parce qu'on voit que... Mais avec les actions que, dans les derniers temps, on a pu mener sur nos territoires, on voit que s'occuper du bien de l'homme, ça ne va pas au bon port. On risque de faire beaucoup de dégâts sur les autres formes de vie. Et faire des dégâts sur les autres formes de vie, après, ça va être faire des dégâts sur nos vies aussi.
Oui, c'est ce que vous dites, c'est que... Il faut arrêter de construire en aseptisant.
Oui.
Et en gros, on est bien sûr aujourd'hui, prendre en compte toute la chaîne du vivant est
oui.
primordial.
Oui. Et après, ce que j'ai toujours fait, et que je fais encore aujourd'hui, je considère qu'on contribue à construire la ville. On contribue à construire l'espace duquel on a besoin pour vivre. Mais on contribue dans le sens qu'il y a plusieurs savoir-faire qui doivent être mobilisés. Et humblement, je m'intéresse à des questions structurelles. Donc la passerelle, on l'a fait avec Jean-Marc Veil, qui est un très bon ingénieur. Mais ayant fait déjà dans mes études beaucoup des structures. Donc on peut s'occuper de certains aspects techniques, mais il faut qu'il y ait des spécialistes très élargis. Et donc même la question du vivant, c'est bien que dans les projets, quand les moyens sont là, il y a aussi du savoir-faire sur le vivant qui soit intégré et qui prenne un certain poids sur la question économique, parce qu'après c'est là un peu qu'aujourd'hui on peut dire que les efforts parfois qu'on mène sont proportionnels à l'enjeu économique. Donc parfois, effectivement, l'espace vert, même vu que l'enjeu économique avant n'était pas très significatif, c'est pas ça qu'on vend dans certains projets, ou c'est pas là qu'on pourra vivre.
Alors qu'on a compris qu'il valait mieux un arbre plutôt que 50 ventilateurs.
Oui, c'est sûr.
C'est un peu ça l'image.
Oui, et aujourd'hui on sait que s'occuper de ceux qui sont aux abords de ceux qui ont fait, c'est s'occuper du cœur de ceux qui ont fait.
Voilà.
Donc c'est pas la technique et qu'elle soit à l'intérieur du bâtiment qui doit nous prendre la tête à 100%. Mais c'est qu'est-ce qu'il y a juste à quelques mètres des bâtiments qu'on bâtit, par exemple.
Vous avez une équipe d'à peu près combien de personnes ? Comment elle est constituée ?
Elle est constituée toujours d'architectes qui ont la volonté du partage de la responsabilité et qui sont volontaires dans l'opportunité de prendre part à l'ensemble des enjeux. C'est à l'ensemble des phases. L'agence suit les chantiers. Donc, je m'attache à qu'on suit le projet du début à la fin. Donc, ça doit être des collaborateurs qui ont cette même envie. Donc, il n'y a pas de sectorisation.
Il faut avoir envie de bosser, en gros.
Il faut avoir envie de bosser, mais il faut avoir envie aussi d'être intéressé par le résultat.
Oui.
Et le résultat, il n'arrive pas à la fin, mais il arrive seulement parce qu'on a su le rapprocher par des étapes intermédiaires.
Je dirais presque qu'on peut pousser le bouchon plus loin dans le sens où le résultat, il commence à partir de l'usage. Et qu'en fait, il pourrait se mesurer pendant des lustres, enfin tout le temps que ce bâtiment est occupé.
Oui, simplement, on ne pourra pas, on n'aura plus l'espace pour intervenir.
Ouais.
On a beaucoup d'espace pour intervenir jusqu'à la livraison. Je le voyais hier, et désormais, on laisse la main. On laisse la main qui... Mais ça dépend des projets. Parfois, on a des suivis sur les questions énergétiques qui peuvent perdurer, donc on est toujours concerné.
Mais je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de regard porté par la profession, mais ça c'est général, hein, et ça englobe tous ceux qui font la ville, je dirais, sur justement comment ces espaces-là ont été digérés par l'usage, en fait. Comment ça se passe après? Et qu'est-ce que les gens gardent, qu'est-ce que les gens rejettent, qu'est-ce que les gens... Enfin, il y aurait des tas de choses, des tas de... ce seraient des indicateurs formidables si on avait un peu d'énergie à y mettre.
À vrai dire, oui, je comprends très bien, c'est les bons indicateurs. Oui.
Ouais.
Parce qu'on développe les projets sur des temps longs, mais c'est seulement sur les temps qui viennent à la suite, qu'effectivement ils sont encore plus longs, qu'on peut apprécier le sens de ce qui est, des choix qui ont été faits. Après, aujourd'hui, n'existe pas comme une sorte d'émission, comme un investissement qui est effectivement cadré. Je pense que, bon, c'est mon cas, mais c'est le cas de beaucoup d'autres, pour continuer à chercher à être pertinent dans ce qu'on propose, on regarde comment ce qu'on a fait, il est vécu.
Oui, ça semble évident.
Ça semble évident, mais c'est vrai que ça voudrait dire prendre du temps pour ça, et parfois peut-être même des moyens, donc ça ne va pas tout seul. Ce qui m'aide personnellement à avoir ce genre
de démarches,
en tout cas d'intentions, c'est être concerné par des projets urbains. Là, c'est autre chose. Là, on est dans une autre temporalité, et à vrai dire, ce n'est pas vrai qu'on ne voit pas et on n'accompagne pas
L'usage. Et c'est vrai que vous en avez dans votre agence, des projets urbains.
Oui, on a, en tout cas, après, il n'en faut pas beaucoup pour comprendre la logique de l'exercice. Accompagner 10 ans, 15 ans un projet urbain, donc il faut le temps pour le faire, mais il ne faut pas faire l'exercice 10 fois, il ne faut pas en avoir forcément 20. Mmh. Une seule fois, on comprend l'enchaînement. Et on comprend l'enchaînement après ce qui va avoir lieu, une fois qu'on aura terminé, on a livré un bâtiment, par exemple. Mais ce qui est bien, auquel je prête beaucoup d'attention, c'est aussi qu'est-ce qui a eu lieu avant qu'on puisse donner l'attention à un projet spécifique. Donc, il y a une genèse qui démarre souvent bien plus tôt.
Oui, parce que le vécu est déjà là, de toute façon.
Le vécu, il est là, les exigences sont là, des acteurs, ils sont déjà là, peut-être des acteurs qui, après, deviennent mineurs, qui ne sont pas les concepteurs de ce qui est... Et donc, ça s'inscrit dans un temps qui est long et qui démarre avant et se prolonge après.
Alors, incontestablement, on vit une période un peu étrange. Est-ce que vous vous posez la question de l'appréhension du monde dans lequel on vit? Et est-ce que vous le partagez avec votre entourage? Qu'est-ce que vous donneriez, vous, peut-être comme règle ou comme idée pour traverser cette époque où à la fois on est très gâté, nous en tout cas en Occident, on l'est encore, mais on a l'impression que ça peut s'écrouler à n'importe quel moment. Comment vous, architecte, vous appréhendez ça?
En premier lieu, j'établis un rapport plutôt comme personne, plus qu'architecte, et l'architecte il suit. Parce que je suis aujourd'hui un tout avec le métier que j'exerce, avec les patients qui l'animent. Mais parfois, c'est l'architecte qui suit la personne plus que la personne qui suit l'architecte. Et je pense que la machine, c'est un point balai. Et à vrai dire, je pense qu'on est encore dans une phase que la machine reste un balai. Je ne sais pas du tout, à vrai dire, comment ce processus pourra évoluer, comment on pourrait aujourd'hui agir pour que ça se fasse. Je vois qu'il y a quand même beaucoup d'actions qui sont menées. Il y a beaucoup de personnes qui mettent ça comme leur raison existentielle, de désemballer la machine. Et je pense que si on, même dans le métier qu'on fait, si on porte une attention à l'essentiel, si on travaille désormais sur la construction, l'atteinte d'un objectif, qui peut être celui d'un programme, celui d'une vision spécifique, mais dans un cadre, dans une conscience du cadre dans lequel on va intervenir. Donc le cadre, dans le sens, le cadre naturel, le cadre, la conscience de l'existence, le cadre temporaire aussi. C'est qu'on, ce qu'on fait au présent, il va avoir une vie beaucoup plus lointaine. Vous avez cité le pont des gènes. J'étais passé la veille sur ce pont.
Oh. Et ça a dû vous faire froid dans le dos.
Ça, oui, ça le fait encore venir. Je n'ai eu personne qui était concerné, touché. Ouais. Et ce qui a eu lieu, c'est que le sol sur lequel on pose les pieds, il s'effondre. Parce que le pont, même si vu que j'en ai pu en faire une fois qu'on y marche, la passerelle qu'on a fait à Amiens, elle est faite, on met les pieds sur du BFUP, sur du béton très... Donc c'est créer un sol artificiel. Une fois que c'est un sol, on lui fait confiance. On va dire, bon, il va me soutenir.
Alors
on a l'habitude.
Alors que
ce n'a pas été le cas. Ce sol-là, il n'a pas soutenu. Et d'un certain point de vue, le temps entre le moment dans lequel on a conçu le sol et le moment dans lequel il s'effondre, il est court. Donc il faut aujourd'hui agir avec une vision du temps beaucoup plus longue.
Avec aussi un sens de la responsabilité plus long, enfin plus grand.
Oui,
peut-être.
Ou avec un, peut-être avec un sens de responsabilité tout court.
Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser au béton et à la matière. Vous avez, j'imagine que, enfin, on l'a déjà dit dans l'introduction, vous allez vers des matériaux biosourcés.
Oui, c'est le cas. Aujourd'hui, les difficultés que je rencontre personnellement, mais c'est par moments aussi encore l'adéquation entre le prix des constructions et la bonne démarche qu'on voudrait mener ou qu'il faudrait qu'on mène. Donc, par moments, si certains matériaux, je voudrais bien pouvoir les intégrer en quantité aussi plus importante. Et parfois, si encore c'est les techniques, ce qui est rodé, ce qui est. Donc, il revient aujourd'hui encore moins coûteux. Et qui, en raison, j'en parlais hier encore avec un directeur du Crédit Agricole, de la banque. On pourrait dire que ça me choque, mais ce n'est peut-être pas tout à fait le cas. C'est que le prix de la construction actuellement, on le finance avec un endettement à 25 ans. On veut bâtir pour des temps très très longs, en tout cas on a raison de le faire, parce qu'on n'a pas intérêt aujourd'hui à faire autrement, à démolir les bâtiments au bout de quelques décennies, ce n'est pas possible. Et en même temps, on est dans l'exercice financier qui est un peu en place, parfois même des acteurs publics, ce coût de construction, il doit, à 25 ans, être amorti. Et c'est une limite. C'est une limite à ce qu'on pourrait faire. On pourrait le faire, considérer que pour le financer, il faut regarder plus loin. On ne peut pas regarder 25 ans, il faut regarder un peu plus loin. C'est un jeu plutôt d'équilibre entre les financiers. Et il permettrait de pousser beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui sont prêts à partir.
À s'engouffrer.
Des confrères, beaucoup de confrères, c'est sûr, mais aussi des entreprises.
C'est ça, parce que quand on écoute parfois des médias, des grands médias, on entend certains journalistes qui n'ont rien à voir avec l'architecture, entre guillemets, taper sur les architectes, ce qui, à chaque fois, moi, me fait bondir. Mais ils devraient comprendre que les choix, ce n'est pas l'architecte. Hein. Donc, souvent, le choix, c'est un cahier des charges, c'est des choix financiers, enfin, ou des possibilités financières.
Oui, l'architecte, moi, je l'ai appris ça aussi à l'école. C'est que tout le patrimoine que l'Italie a pu bâtir, certes, ça a été l'œuvre intellectuelle d'un concepteur, mais à la suite d'une demande de la commande, de quelqu'un qui était...
Et on
voit que ce qui a été bâti et qui a son sens encore au bout de certains siècles a fait l'objet quand même d'un investissement collectif important.
Oui.
Parfois, à l'époque, c'était des investissements qui coûtaient la vie à certaines personnes, ou qui étaient il pouvait être possible parce qu'il y avait un dysfonctionnement aussi dans le rapport entre les... les existences des uns et des autres. Il y avait, il y avait les esclaves, il y avait qui pouvaient donner l'ordre de la commande. Mais en tout cas, on a l'architecte, il peut être un bon architecte avec un bon maître d'ouvrage.
Ouais, c'est, en général, vous l'exprimez tous.
Oui. Non, mais je pense qu'on l'exprime parce que c'est une réalité. Je pense que c'est... Et à vrai dire, je trouve que l'exercice d'être maître d'ouvrage, ou même l'exercice qui est celui de certains politiques d'être assez influent sur l'évolution d'une ville, c'est un exercice qui est au cœur de ce qu'on fait et qui n'est pas évident et qui est déterminant.
Alors, je crois que le monde de demain, on l'a déjà plus ou moins esquissé.
Oui.
Hein, on sait déjà à peu près les règles ou les idées qui seraient adoptées pour pouvoir le rendre désirable. C'est Laure Mériot de l'atelier 234 qui avait proposé cette formule dans un des podcasts, et je la reprends parce que je trouve que c'est intéressant. Voilà, l'avenir désirable. Alors, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui?
Et je leur donnerais un conseil qui était valable pour moi à l'époque, donc peut-être qu'il est encore toujours valable. Mettre beaucoup de leur attention au pourquoi. Pourquoi ils font. C'est un moment dans lequel on est libre. L'objectif, c'est de rester libre tout au cours de sa vie. Mais bon, c'est un moment...
Le
plus possible. Non, mais un degré de liberté, il faut quand même essayer de le préserver. Je pense que bon, le plus possible, effectivement.
Ça ne correspond pas toujours à tous les tempéraments.
Non, c'est vrai que ça... Il faudrait qu'il soit donné à tout le monde l'occasion d'être un être libre. Mais c'est plutôt le résultat d'un parcours que chacun mène de pouvoir le conquérir. Donc, en tout cas, quand on est des étudiants, c'est un moment de liberté et donc un moment de faire ses...
Il faut en profiter.
Il faut en profiter, il faut se...
Carpe diem.
Se libérer de ce qui sont les contraintes. Il ne faut pas encore trop se charger de ce qui est les outils. Les outils vont suivre, vont venir. Le dessin, d'autres choses. Les outils vont venir.
Un mot de la fin?
Le mot de la fin, c'est... que c'est un très beau métier, vu que vous faites un podcast quand même sur les architectes, c'est un très très beau métier, et qui est un bon exercice existentiel, que par moments, moi, j'ai associé à une autre chose que j'ai fait, je navigue. Je suis un...
Ah, vous aimez le bateau.
J'aime le bateau et j'aime
c'est
bien
y être... C'est votre hobby.
C'est un hobby, oui. Voilà. Ouais. Et quand on a la barre d'un bateau, voilà, ça suffit, on va dans un sens, on va dans l'autre, on a un outil qui est la prolongation de nous, qui est technique, mais non, on est entouré par les éléments qui nous dépassent, qui sont là, ils le rappellent tout le temps, ils sont costauds, il ne faut pas jouer avec. À vrai dire, on joue avec, mais il faut jouer bien. Et donc, je pense que c'est un métier qui est à peu près la même chose. Jouer, continuer à jouer, jouer bien, et avec les éléments qui sont autour de nous.
Bon, c'est une très belle formule pour terminer ce podcast. Merci beaucoup, Ronald, pour
ce
beau témoignage. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous dès notre prochain numéro en anglais sur des projets de Ronald Sirio. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host
Niñas Bien podcast. We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.